France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, meurtre politique d'un héritier déchu au destin shakespearien, Kim Jong-nam. Petit-fils de Kim Il-sung et fils aîné de Kim Jong-il, il est au départ le favori de son père pour succéder à la tête de la Corée du Nord. Oui, mais voilà, Kim Jong-nam manifestement préfère la bonne chair de l'Occident à la cour stalino-maoïste de Pyongyang. Canard boiteux de la dynastie, l'homme multiplie les frasques avant d'être répudié par son père, qui lui trouve vite un remplaçant, son jeune demi-frère, le redoutable Kim Jong-un. Quand celui-ci accède au pouvoir en 2011, la rivalité laisse place à une haine farouche. Et ce qui devait arriver arrive. Le 13 février 2017, Kim Jong-nam est empoisonné à l'aéroport de Kuala Lumpur, en Malaisie. À la manœuvre, les services secrets nord-coréens. Le scénario qu'ils ont concocté est rocambolesque. Les deux meurtrières recrutées étaient convaincues de participer à un canular vidéo avec de la lotion pour bébé. Notre invité aujourd'hui, Sébastien Faletti, correspondant à Séoul et à Shanghai pour Le Figaro et Le Point, et auteur du livre intitulé « La piste Kim », paru en 2018 chez Équateur. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Guillaume Ballandras, coordination Franck Cognard. Chargé de programme Rebecca Donante, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Il ressemblait à n'importe quel voyageur qui s'apprêterait à embarquer. Il lève les yeux vers le panneau pour regarder les informations sur son vol. Il regarde l'écran environ 10 secondes, puis il se dirige vers les bornes d'enregistrement.
Alors qu'il attendait son vol pour Macao à l'aéroport de Kuala Lumpur, deux femmes auraient attaqué et empoisonné Kim Jong-nam.
La scène est filmée par deux caméras différentes. Ici, on aperçoit la jeune femme qui lui passe la main sur le visage. Par derrière.
Au moment où les caméras de l'aéroport de Kuala Lumpur le filment en train de décrire son agression aux policiers et demander de l'aide médicale, Kim Jong-nam n'a plus que 20 minutes à vivre.
Lundi 13 février 2017, aéroport international de Kuala Lumpur. Dans le grand hall climatisé du terminal 2, les haut-parleurs diffusent une musique d'ambiance entre deux messages d'information noyés dans l'écho. Caddie en main, les voyageurs en transit déambulent dans les boutiques Hortax et les cafétérias bon marché. Cathédrale de la consommation, c'est un aéroport qui ressemble à tous les autres. Un espace de transit, sans identité ni histoire, où l'on ne fait que passer et acheter. Vers 8h du matin, Siti Ezia, une Indonésienne de 26 ans, franchit les portes vitrées du hall. Coupe au carré, au blanc imprimé de l'acronyme LOL et petit sac à la main, la jeune femme se fraye un chemin dans la foule jusqu'à l'escalator principal. Malgré sa démarche pressée, elle n'a pas d'avion à prendre. Non, elle est ici pour faire un travail un peu spécial. La jeune femme fait partie en effet d'une équipe qui réalise des vidéos de canulars diffusées sur YouTube. Sa mission est aussi simple qu'elle est absurde, étaler de la lotion hydratante pour bébé sur le visage d'inconnu devant l'objectif d'une caméra cachée. En ce mois de février 2017, voilà près de 3 mois qu'elle a été recrutée par un producteur japonais, un certain Monsieur James. Pour elle, fille de paysan, devenue serveuse dans un bar louche de Kuala Lumpur, ce travail est une aubaine, la garantie d'une vie meilleure, comme elle l'explique dans un entretien pour National Geographic.
La première fois que j'ai rencontré James, je l'ai trouvé sympa et drôle. Il m'a demandé si je voulais participer à un tournage de film. Je lui ai demandé quel genre de film. Il m'a dit « Des caméras cachées. Avec ça, tu vas voyager et gagner beaucoup d'argent. »
Depuis, les promesses de ce James se sont réalisées. Après un tour de chauffe dans une galerie commerciale de la capitale malaisienne, la jeune Indonésienne a enchaîné avec 3 vidéos tournées à l'aéroport de Phnom Penh au Cambodge. Ainsi, en quelques jours à peine, elle a piégé une poignée d'inconnus et empoché au passage plus de $600. Mieux encore, depuis son retour à Kuala Lumpur, elle a tourné 4 nouveaux sketchs, cette fois avec l'associé de Monsieur James, un sud-coréen appelé Monsieur Chang. Alors, quand elle débarque à l'aéroport ce matin du 13 février, elle sait exactement à quoi s'attendre. D'ailleurs, comme pour les fois précédentes, elle doit faire le point d'abord avec ce monsieur Chang. Et si la nature du travail est plutôt étrange, City est détendue. Avec l'expérience accumulée, elle sait qu'elle est capable de mener à bien sa mission.
Je piégeais les gens avec de la lotion pour bébé. Je l'ai fait pas mal de fois. Cette journée du 13 février a commencé comme toutes les autres.
Arrivée en haut des escalators, la jeune femme entre dans un petit café et retrouve le producteur. Sous la lumière des néons, l'homme parle de la cible du jour, un quadragénaire dégarni au visage poupin. L'objectif est le même que pour les précédentes vidéos, le surprendre et lui appliquer de la lotion sur le visage. Comme d'habitude, pas vraiment, car cette fois, les règles sont un peu différentes. City devra travailler en binôme avec une autre femme, vietnamienne, elle, appelée Doan Thinh Hong. Les deux femmes viseront le même homme. Doan aspergera la lotion en premier, puis City passera juste après. Malgré le changement de dispositif, la jeune femme ne s'inquiète pas. Et pour la motiver, Chang lui fait une promesse. « Si tu travailles bien, lui dit-il, tu auras droit à un bonus. » Un peu avant 9h, City et M. Chang sortent du bar et regagnent le hall du Terminal 2. Tranquillement, le producteur la conduit derrière un pilier. En toute discrétion, il lui montre sa complice du jour, Doan. Elle se tient à une dizaine de mètres, accompagnée d'un autre homme, associé de Chang. Puis, il désigne un voyageur noyé dans la foule. Cet homme-là, dégarni, sac à dos sur l'épaule et veste grise qui entoure une silhouette rondouillarde. Oui, cet homme discute avec une employée là, devant le guichet d'enregistrement d'Erasia. C'est lui. Bien. Monsieur Chang fouille dans son sac, d'où il sort un tube de lotion. Il l'applique avec délicatesse sur les paumes de City. Ensuite, il lui ordonne de garder les mains fermées. Au loin, Doan reçoit le même traitement et la farce peut commencer. Les deux jeunes femmes ne le savent pas, mais les soi-disant producteurs sont en réalité des agents secrets nord-coréens. Quant à la crème qu'elles ont sur leurs paumes, c'est un poison tellement puissant qu'il a été classé comme arme de destruction massive par les Nations Unies. Et bien sûr, cet homme joufflu aux airs de Monsieur Tout-le-Monde, qui parle au guichet, n'est pas un inconnu choisi au hasard. Et évidemment, il s'appelle Kim Jong-nam. Il est le demi-frère aîné de celui qu'on nomme le leader suprême, le tyran grotesque de la Corée du Nord, Kim Jong-un. Dans 20 minutes, le voyageur de l'aéroport de Kuala Lumpur ne sera plus de ce monde. Malgré les liens de sang qui les unissent, Kim Jong-un et Kim Jong-nam ne se sont jamais rencontrés. Car à la différence de son dictateur de frère, Kim Jong-nam est un enfant du secret. D'ailleurs, il a longtemps été affublé d'un surnom qu'il a couvert de honte pendant toute son enfance, le bâtard de Pyongyang. Pourtant, la tradition aurait voulu que ce soit lui, l'aîné, qui accède au pouvoir. C'est d'ailleurs l'un des dictons les plus connus dans toute la péninsule coréenne. L'aîné perpétue le culte des ancêtres. Au Nord, cette formule est rigoureusement appliquée. Une véritable dynastie est installée au pouvoir, et ce depuis la fondation du pays par le grand-père, une figure de la résistance anti-japonaise, Kim Il-sung.
Le peuple m'a accordé sa confiance. Il n'y a rien de plus gratifiant que de les servir fidèlement. C'est la mission honorable de notre gouvernement populaire. Défendre les intérêts de la population coûte que coûte, dans le cadre d'une vision à long terme.
Née en 1948 sur les cendres de la Deuxième Guerre mondiale, la Corée du Nord est le fruit de la scission de la péninsule en deux blocs au niveau du 38e parallèle, chacun avec son allégeance. D'un côté le Sud, libéral et pro-occidental, de l'autre, le Nord communiste, allié de l'URSS et de la Chine. Pendant la guerre froide, le régime de Kim Il-sung s'affirme comme une dictature pure et dure, presque traditionnelle. Parti communiste unique, propagande constante, purge régulière dans l'appareil d'État, exécution publique et disparition mystérieuse, mais surtout, culte du chef. affublé de surnoms hyperboliques qui nous paraissaient ridicules en démocratie, tels que « président éternel » ou encore « professeur de l'humanité tout entière », Kim Il-sung impose sa volonté sur la vie quotidienne de tous les Nord-Coréens, y compris sur celle de son fils aîné, son dauphin promis à lui succéder, Kim Jong-il. Cinéphile averti et séducteur invétéré, le rejon Kim Jong-il entretient dès la fin des années 60 une liaison adultère avec une starlette de cinéma, Song In-rim. Et bientôt, elle tombe enceinte. Et le 10 mai 1971, elle donne naissance à un petit garçon baptisé Kim Jong-nam. Kim Il-sung, le patriarche, est furieux. Non seulement le couple n'a rien d'officiel, mais en plus, la famille de l'actrice vient d'un pays ennemi héréditaire du régime, la Corée du Sud. Il décide donc de ne pas reconnaître l'enfant. Rejeté par la famille officielle, Kim Jong-nam profite tout de même des largesses accordées par son rang. Gamin un peu rond et gauche, il grandit reclus dans les palaces du régime aux côtés de sa grand-mère maternelle. Adolescent, il quitte sa prison dorée. Comme tous les fils des cadres du régime, il est envoyé en catimini en Europe, à rebours des grands discours publics sur l'Occident et sa décadence. Ainsi, le jeune homme est-il inscrit au lycée français de Moscou d'abord, puis à l'école internationale de Genève en Suisse. Là, il découvre un mode de vie interdit à tous ses concitoyens. Et en quelques mois, le timide héritier se transforme en redoutable fêtard, capable de dépenser des milliers de dollars dans les plus grandes discothèques, loin des presse et posters de Pyongyang. Mais à l'été 1994, il doit rentrer au pays. Son grand-père, Kim Il-sung, vient de mourir. Le 8 juillet, le cercueil du président éternel, pas si éternel que ça la preuve, traverse l'avenue principale de Pyongyang devant une foule captive et hystérique dressée pour pleurer.
Une dernière fois, notre président éternel remonte les rues de la capitale. Ils sont 3 millions de citoyens à l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Tous sont attendus pendant des heures pour l'apercevoir.
Aux premières loges, les caméras du régime filment son successeur, Kim Jong-il. Planté comme un i, raide comme une lance, la mine fermée, il embrasse son destin de tyran. Dans les années 90, après la chute du mur et la dissolution de l'URSS, la Corée du Nord s'isole. En quelques mois, l'économie s'effondre et une terrible famine débute. Mais le régime poursuit rigoureusement son programme politique, collectiviste et d'un autre âge. Devenu le dernier vestige de la guerre froide, le pays plonge dans un anachronisme surréaliste. La haine de l'Occident y est cultivée avec la même ferveur qu'au moment de la fondation du pays. Tous les citoyens presque doivent s'enrôler dans l'armée et le culte du chef semble tout droit sorti d'une vieille archive. Partout où Kim Jong-il se déplace, c'est la même rengaine. Quand il arrive, on applaudit. Quand il parle, on se tait et on prend des notes. Et quand il pose une question, on répond oui. Dans chaque bâtiment, son portrait trône en bonne place, aux côtés de celui de son père, dont il est totalement à l'image. Aveugle aux souffrances de son peuple, comme l'explique ce réfugié dans le reportage « Corée du Nord, les hommes des Kim », diffusé sur Arte et Prix Albert Londres 2018.
Au bout de 2 mois sans salaire, on a demandé pourquoi on ne gagnait rien. Et on nous a répondu « Nous n'avons pas reçu d'instruction du parti nous disant de vous donner votre salaire. » Le parti en Corée du Nord, c'est Kim Jong-il, notre général en chef. Cette réponse nous condamnait au silence. Les centaines d'ouvriers ne pouvaient pas dire quoi que ce soit. Alors on a continué à travailler, même de nuit, à la lumière de nos lampes torches, en luttant contre le sommeil, travailler en prenant notre mal en patience. J'ai travaillé 5 mois comme ça, sans recevoir de salaire. Je me suis senti trahi.
À la fois paranoïaque et fidèle à la tradition dynastique, Kim Jong-il décide de promouvoir son aîné Kim Jong-nam, catapulté général. En poste au sein de la police secrète, il participe notamment à une purge de dissidents en 1996. Mais il ne va pas bien. Non, déprimé, mélancolique, il semble regretter la liberté qu'il a connue en Europe. Vêtu d'un uniforme vert bouteille trop grand pour lui, le dauphin se désespère. Indulgent avec les transfuges, conciliant avec les opposants, il montre un caractère aux antipodes de ce qui est attendu de lui. Déçu, son père décide de le muter à la direction des services informatiques du pays, loin, très loin du cœur du pouvoir. Mais l'état psychique du jeune homme ne s'améliore pas. Et bientôt, l'appel du large est trop fort. À la fin des années 90, Jong Nam multiplie les séjours à l'étranger, notamment à Paris, où il cultive diverses addictions. L'alcool fort, les bonnes tables, les femmes et les jeux d'argent. Puis en 2001, arrive la frasque de trop. Elle précipite même le régime dans une crise diplomatique. Ainsi, le 4 mai, le trentenaire se fait arrêter au Japon alors qu'il tente de se rendre à Disneyland Tokyo avec sa femme, son fils de 4 ans et une nourrice. Rolex serti de diamants au poignet et faux passeport dominicain en poche, King Jong Nam voyage sous le nom de Pang Xiong, ce qui signifie « gros ours » en chinois. Quand sa véritable identité est découverte, les médias du monde entier font le déplacement. Bedaine et visage poupin hérité de son père, l'homme est filmé par les caméras, comme ici, celle de France 2.
Le fils du dirigeant nord-coréen adore les parcs d'attractions. Il a été arrêté hier à Tokyo en possession d'un faux passeport. Il voulait tout simplement aller à Disneyland. Charlotte Millet. Oh. Cet inconnu a failli déclencher une tempête diplomatique. Kim Jong-nam, le fils du président nord-coréen, s'apprête finalement à quitter le Japon pour la Chine après 3 jours de détention. Il a été arrêté mardi dernier à l'aéroport de Tokyo en possession d'un passeport falsifié de la République dominicaine. Après avoir nié, l'homme a finalement reconnu être le fils du président nord-coréen, ajoutant qu'il était au Japon pour faire du tourisme à Disneyland avec 2 de ses amis et un garçonnet de 8 ans. Cette affaire pourrait être embarrassante pour le Premier ministre japonais qui vient de prendre ses fonctions, car les relations entre le Japon et la Corée du Nord sont actuellement tendues. Il s'est donc borné à indiquer que des vérifications étaient en cours. Le mystère plane toujours sur Kim Jong-nam, ici âgé d'une dizaine d'années. On ne connaît ni son âge précis, ni sa fonction réelle. Seule certitude, c'est un féru d'informatique. La presse japonaise le soupçonne d'être venu en espion, s'informer sur les dernières avancées japonaises en matière de technologie de l'information, qui sont devenues récemment une priorité nationale pour la Corée du Nord.
Depuis son palais de Pyongyang, Kim Jong-il découvre les images. Foudrage. Il doit se rendre à l'évidence, son fils aîné ne sera jamais son successeur. Le dictateur prépare donc un plan B, en la personne de son fils cadet. Il a bientôt 20 ans, et à la différence de son aîné, il n'a pas pour mère une sud-coréenne. Mais surtout, surtout, il est impitoyable, méthodique. Son nom, Kim Jong-un. Dans les mois qui suivent, le jeune homme monte tous les grades de l'armée. Et, contrairement à son demi-frère hédoniste, il jubile de son statut de dauphin et de la peur qu'il suscite auprès des cadres du régime. D'ailleurs, son frère aîné, ce Kim Jong-nam, il le méprise et bientôt, il va le lui montrer.
He says it's already time to wake up from my dream. Wake up from my freedom dreams. Yeah.
break from the now, to take a break from the past, to take a break from the now, to take a break from the past, to take a break from the now.
Aujourd'hui, l'assassinat de Kim Jong-nam.
France Inter, affaires sensibles.
Rappel des faits. En 2001, Kim Jong-nam, le fils aîné de Kim Jong-il, s'est fait arrêter au Japon avec un faux passeport. Et il enterre définitivement toute chance de succéder à son père. Dans l'ombre des palais de Pyongyang, le tyran choisit donc un nouveau dauphin. Son fils cadet de 19 ans, froid et mutique, Kim Jong-un. Bombardé général, celui-ci s'affirme en quelques mois comme un officier implacable et sans pitié. Tombé en disgrâce, Kim Jong-nam met les voiles direction la Chine, puis Macao, la turbulente ancienne colonie portugaise. Amateur de cognac et de jeux d'argent, il prend ses quartiers dans un hôtel 5 étoiles près des casinos de la ville et installe sa famille dans une villa sur une petite île. Muni d'un faux passeport portugais, il se promène dans toute l'Asie, Bangkok, Shanghai, Hong Kong, mais aussi Kuala Lumpur, où il multiplie les affaires douteuses. Pourtant, aujourd'hui encore, cette période reste marquée par l'incertitude. D'après certains observateurs, en effet, Kim Jong-nam continuerait d'œuvrer discrètement pour Pyongyang à travers le sulfureux bureau 39, chargé de faire entrer de l'argent au pays par tous les moyens. Plus conciliant que son frère, réputé proche de Pékin, Jong-nam plaiderait aussi auprès de son père pour une ouverture à la chinoise. Alors, le roi déchu est-il un rentier oisif ou un sous-marin toujours au service de la dynastie nord-coréenne? Une chose est certaine, malgré sa déchéance, l'homme continue d'être très proche de son père. Ainsi, en 2008, quand celui-ci est victime d'un AVC, Jong-nam file à Paris en catimini. Là, il persuade un ponte de la chirurgie, le professeur Roux, de la compagnie à Pyongyang. Mais l'état de santé du leader suprême continue de se dégrader. Et le 17 décembre 2011, 17 ans après Kim Il-sung, il débarrasse le plancher et tout le pays plonge à nouveau dans un psychodrame collectif.
Aujourd'hui, je suis perdu. Et les rues sont tellement vides. Il n'y a plus rien à faire. Mais que faire maintenant qu'il n'est plus là? Qu'est-ce qu'on va devenir sans lui?
Dans les semaines qui suivent, le monde découvre son successeur, Kim Jong-un, donc. Visage rond, tempes rasées, cheveux plaqués en arrière par une épaisse couche de brillantine, l'homme promène son embonpoint entre l'Assemblée populaire suprême de Pyongyang et la campagne environnante, où il s'exhibe à dos de cheval devant les caméras de la télé du régime. Du côté de Macao, Kim Jong-nam, lui, est préoccupé. Non seulement il a perdu son plus grand protecteur au sein du régime, mais en plus, le nouveau tyran n'a que du mépris pour lui, et il en est bien conscient. Alors, pour se protéger, il adopte une stratégie bien connue, sortir de l'anonymat et s'exprimer publiquement. En 2012, l'exilé signe alors avec un journaliste japonais un livre d'entretien au vitriol. Au fil des pages, Jong-nam dénonce pêle-mêle le poids de l'armée, l'inertie de l'administration nord-coréenne, mais aussi et surtout le manque de vision de son demi-frère.
Le pays est très instable et j'ai de sérieux doutes quant aux capacités d'une personne avec seulement 2 années d'expérience à s'imposer comme le leader. Le principe de succession héréditaire est moqué dans le monde entier. Kim Jong-un n'est rien de plus qu'un symbole. Sans réforme et libéralisation, l'économie s'effondrera, mais les réformes et l'ouverture conduiraient à une crise et à la fin du régime.
Au sein de la dynastie, c'est du jamais vu. L'un des membres de la famille ose critiquer publiquement la doctrine et pointer le leader du doigt. Avec ce livre, Kim Jong-nam entre dans le viseur de son frère, et il n'est pas le seul. Du côté de Pyongyang, une grande purge est organisée et tous les proches de Kim Jong-nam sont éliminés. Il y a par exemple son oncle, John Son-tak, frère de Kim Jong-il et numéro 2 du régime. Accusé de haute trahison, il est exécuté en décembre 2013. À ce sujet d'ailleurs, les rumeurs les plus folles circulent. On raconte qu'il aurait été placé nu dans une cage, puis dévoré par 120 chiens affamés devant 300 dignitaires du régime. Ou encore, qu'il aurait été pulvérisé par un canon anti-aérien. Quoi qu'il en soit, voyant son clan se réduire peu à peu, Kim Jong-nam décide de se trouver un nouveau protecteur. Fin 2013, il commence à faire les yeux doux à l'un des plus grands ennemis de Pyongyang, les États-Unis et leur CIA. Pour Washington, l'affaire est alléchante. Le retournement de l'aîné des Kim pourrait permettre d'obtenir des renseignements de première main, notamment et surtout sur l'état de l'arsenal nucléaire nord-coréen. Mais très vite, les agents américains déchantent. Jong-nam est resté trop longtemps loin de Pyongyang. Il n'a donc pas beaucoup de billets et surtout, il réclame beaucoup trop d'argent. Désormais sans appui, l'ancien dauphin se met à regarder derrière son épaule lors de chaque sortie. Acculé, il se résout à implorer la clémence de son demi-frère par un courrier qui dit « Je t'en prie, annule l'ordre de me punir, moi et ma fille. Nous n'avons nulle part où nous cacher. Notre seule issue est le suicide. » Et bien sûr, le tyran jubile. Son aîné, désormais, ne représente plus aucune menace pour lui. C'est alors qu'un nouveau service de renseignement entre dans la danse, le NIS, N-I-S, de Corée du Sud. Autour de 2015, quelques agents prennent contact avec le mouton noir de la dynastie du Nord. Ils lui promettent une grosse somme d'argent contre sa défection. Le quadragénaire hésite. Il sait qu'avec une telle trahison, il deviendrait la cible principale du régime. À Pyongyang, Kim Jong-un apprend la nouvelle. Si les négociations aboutissent, l'affaire serait pour lui la pire des humiliations. Paranoïaque et solitaire, il perd patience. Après avoir passé sa colère sur quelques généraux, il envisage une issue digne des plus grandes tragédies, faire assassiner son frère, comme dans Hamlet. Finalement, le 13 février 2017, l'opération est menée dans le terminal 2 de l'aéroport de Kuala Lumpur. Comme nous l'avons raconté au début de ce récit, les meurtrières recrutées sont deux jeunes femmes aux abois, convaincues qu'elles participent au tournage de vidéos humoristiques. Ce jour-là, Kim Jong-un rentre à Macao après une semaine en Malaisie. Bon, rien d'exceptionnel, la routine même. Visiteur régulier de Kuala Lumpur, il y entretient de nombreuses connaissances, collaborateurs, mais aussi maîtresses. Bref, ce vol, il l'emprunte plusieurs fois par an. C'est donc en habitué des lieux qu'il se présente au guichet d'enregistrement des razzias. Il est 8h59. Billet en poche, il a quelques minutes à tuer. Alors il se dirige d'un pas bonhomme vers les boutiques du hall de départ. Mais soudain, deux mains venues de derrière surgissent dans son champ de vision et lui appliquent un liquide visqueux sur le visage. Paniqué, le voyageur se retourne et découvre une jeune femme tout sourire. « Qui êtes-vous » lance-t-il. « Sorry », répond-elle en anglais, avant de filer. Alors qu'elle s'enfonce dans la foule, Kim Jong-nam distingue sa tenue, un jean et un t-shirt gris. Mais il n'a pas le temps de souffler. Peu après, une nouvelle femme s'approche. Habillée d'un haut blanc à manches longues, imprimée de l'acronyme LOL, elle lui frôle la nuque et l'épaule de ses mains avant de s'éclipser à son tour. Aucun cri lancé, aucun coup échangé, malgré les centaines de témoins tout autour, personne n'a rien vu. Seul au milieu du hall climatisé, Kim Jong-nam sent alors son souffle se raccourcir. L'air hagard, il marche péniblement jusqu'à un guichet, puis raconte à un garde l'épisode étrange qu'il vient de vivre. Et très vite, son état se dégrade. Sa vue se trouble, son visage se déforme et d'épaisses gouttes percent de son front. Finalement, un peu après 9h10, il s'effondre. Emmené en urgence à l'infirmerie de l'aéroport, le fils aîné de Kim Jong-il meurt 20 minutes à peine après avoir été piégé par les deux femmes. Il a 45 ans. Bientôt, l'information fait l'ouverture des JT du monde entier, comme ici sur France 2.
L'actualité à l'étranger, la mort mystérieuse de l'héritier banni du régime nord-coréen, c'est un scénario digne d'un film noir d'Hollywood. Regardez son visage, il s'appelle Kim Jong-nam, il s'agit du demi-frère du dictateur Kim Jong-un. Il vivait depuis plusieurs années en exil, et bien il a été tué dans des circonstances très troublantes. C'est Arnaud Comte qui nous raconte.
Kim Jong-un, dictateur provocant et sanguinaire, a-t-il à nouveau fait parler froidement sa colère ? est-il allé jusqu'à faire exécuter son demi-frère, Kim Jong-nam, de 12 ans, son aîné? L'histoire est digne d'un roman d'espionnage, à peine croyable. Lundi, à l'aéroport de Kuala Lumpur, Kim Jong-nam s'apprête à embarquer pour la Chine où il vit, quand deux femmes se ruent sur lui et l'aspergent d'un liquide au visage. Les caméras de vidéosurveillance montrent l'une des suspectes. La voici qui aile tranquillement son taxi après l'agression. Kim Jong-nam est lui en route pour l'hôpital, mais dans l'ambulance, il succombe à une crise cardiaque, empoisonné, foudroyé en quelques instants à peine. Mais par qui et pourquoi ? L'une des suspectes, arrêtée aujourd'hui, pourrait en fait appartenir au service secret nord-coréen et avoir agi sur ordre direct du régime.
Les analyses montrent que le liquide visqueux utilisé contre lui est un poison neurotoxique surpuissant, capable de tuer n'importe quelle personne qui le respire. C'est d'ailleurs pour ça que les meurtrières ont été épargnées. Elles n'ont touché la substance qu'avec leurs mains. Qu'elles ont ouvertes au dernier moment, jamais elles n'ont respiré directement le poison. Grâce à l'exploitation des images de vidéosurveillance, elles sont très vite identifiées. Siti Ezia et Doan Ti Wong. Localisées, elles sont arrêtées, puis interrogées par les enquêteurs malaisiens. L'histoire qu'elles leur racontent semble sortie tout droit d'un roman d'espionnage. Elles ont exécuté, à leur insu, un personnage de premier plan pour des services secrets étrangers. Chose étonnante, les faux producteurs, vrais agents nord-coréens, n'ont même pas essayé de dissimuler leur visage. Vite identifiés, les quatre hommes ne seront jamais arrêtés, car ils ont fui à Pyongyang quelques heures après le crime. En chœur, toute la communauté internationale dénonce l'assassinat du roi maudit de Pyongyang. La Malaisie interrompt ses relations diplomatiques avec le régime de Kim Jong-un. Les pourparlers en cours avec les États-Unis cessent. Et la Chine bloque l'importation de son charbon nécessaire à l'économie nord-coréenne. Un an et demi plus tard, en août 2018, le procès des deux accusés s'ouvre à Kuala Lumpur. Toutes les télés se donnent rendez-vous, comme ici, France 24.
Les accusés face à la justice malaisienne. Parmi les principaux suspects, l'indonésienne Siti Aisyah et la vietnamienne Doan Tai Hong. Elles sont accusées du meurtre de Kim Jong-nam. Les avocats de la défense affirment que ces jeunes femmes issues de milieux défavorisés n'ont pas le profil de tueuses à gages. Quatre agents nord-coréens basés en Malaisie les auraient recrutées et orchestré le meurtre. Le contrat, réaliser des vidéos de canulars diffusées sur YouTube. Pour la défense, le parquet cherche aussi à obtenir un verdict de culpabilité quel qu'il soit en poursuivant leur cliente. Le procureur soutient lui que les deux femmes étaient des agentes entraînées et parfaitement conscientes de ce qu'elles faisaient. Leur acte provoquant délibérément la mort de la victime.
Après cinq jours de débat, la Cour de justice malaisienne valide la version des accusés. Condamnées pour homicide involontaire, elles sont libérées au printemps 2019 et retrouvent l'anonymat. Néanmoins, plusieurs questions restent en suspens. Il y a notamment ces 120 000 dollars retrouvés dans le sac à dos de la victime. Kim Jong-nam avait-il accepté l'offre de l'ennemi sud-coréen? Et puis, que dire de son demi-frère, l'implacable Kim Jong-un? Au dernier étage de son palais, on l'imagine bien esquisser un sourire. En utilisant une arme chimique dans un aéroport, il sait qu'il a envoyé au monde un message clair, celui d'un leader impitoyable, prêt à tout pour consolider son pouvoir et faire de son pays une puissance redoutée. Il en est pourtant loin, son pays. Mais lui, Kim Jong-un, le croit dur comme fer.
France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le meurtre de Kim Jong-nam. Notre invité, Sébastien Faletti, correspondant à Séoul et Shanghai pour Le Figaro et Le Point, et auteur de La Piste Kim, paru en 2018 chez Équateur. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, on vous fait veiller, là. Il est quelle heure chez vous? Il est tard, non?
Là, il est presque 23h, mais c'est ça, ça va encore. Ce sont encore des horaires oui. Acceptables, on va dire.
Tout à fait.
Surtout pour bien. Être avec vous.
Vous avez vécu l'affaire depuis Séoul. Comment a-t-elle été perçue par l'opinion sud-coréenne?
Alors évidemment, tout ce qui entoure la Corée du Nord, c'est très particulier pour l'opinion sud-coréenne, parce que c'est un peu le frère ennemi. Donc il y a à la fois un mélange de crainte et de fascination. Ce qui fait que tout ce qui entoure, en particulier la famille... des Kim, la famille des dirigeants, fascine la presse sud-coréenne et donc l'opinion sud-coréenne, et c'est un petit peu comme un drama. Et évidemment, ça a été suivi, et ça a particulièrement choqué, évidemment, toutes ces histoires de famille, et bien sûr, l'assassinat de Kim Jong-nam, c'était vraiment, pour l'opinion sud-coréenne, le symbole un petit peu d'un climat féodal et de tous les clichés qui sont entretenus aussi par le mystère, parce que il est important de rappeler que sur tout ce récit, tout ce qu'on, la Corée du Nord reste une boîte noire plus que jamais aujourd'hui, et on avance à tâtons. Je dis souvent que quand on veut faire du journalisme en Corée du Nord, c'est plutôt de l'impressionnisme, parce que c'est vraiment, même la CIA, même les services de renseignements du monde entier n'ont que des bribes d'informations de ce qui se passe, encore plus au sujet de cette famille. Mais en tout cas, pour l'opinion sud-coréenne, c'est à la fois très proche et on est en même temps très loin, parce qu'ils sont séparés par ce rideau de fer hermétique qui fait que on ne sait vraiment pas ce qui se passe dans le détail à Pyongyang, surtout dans au cœur du pouvoir.
Sébastien Faletti, tout de même, il y a une question en suspens. Quel rapport entretenait-il Kim Jong-nam avec la CIA, voire avec le NIS, les services secrets coréens? Parce qu'on a quand même retrouvé 120 000 $ sur lui.
Tout à fait, c'est la grande question. En fait, la grande question, c'est pourquoi cet assassinat aussi spectaculaire. Kim Jong-nam, semble-t-il, s'est retrouvé en sursis. Le vrai tournant, comme vous le racontiez, c'est après la mort de son père, Kim Jong-il, il perd un peu son protecteur. Et à partir de là, il devient une menace potentielle pour le nouveau dirigeant Kim Jong-un, son demi-frère, donc qu'il n'a peut-être jamais rencontré en personne. Mais en tout cas, il devient en sursis. Il semble que à l'arrivée de Kim Jong-un, on lui ait fait comprendre qu'il fallait qu'il rentre à Pyongyang, et c'est une façon de rentrer dans une cage dorée, une prison dorée. Donc, j'accepte que tu restes en vie, mais tu dois rester sous mon contrôle. Kim Jong-un, visiblement, préférait la liberté. Il voulait garder son mode de vie. C'est un bon vivant, un viveur. Et il a voulu rester à l'écart pour garder cette liberté. Évidemment, au fur et à mesure, il est de plus en plus en difficulté. Il est pourchassé. Et c'est là où on sait qu'il a eu des contacts avec les services de renseignement, avec la CIA notamment, qui lui a proposé de venir. Mais il semble qu'il a été très gourmand et qu'il n'avait pas forcément des informations extraordinaires à rendre. Côté ensuite, la Corée du Sud, ça a été le banco. C'est-à-dire qu'évidemment, la Corée du Sud aime attirer des transfuges de haut niveau, parce que c'est une sorte un
prise
trophée
de guerre,
politique
de guerre, ouais.
Qu'on peut afficher face à l'adversaire. Donc, Kim Jong-nam avait une puissance symbolique là, qui intéressait Séoul. Certainement, il y a eu des tractations, mais évidemment, ça voulait dire aussi basculer dans une vie, là aussi, une forme de prison dorée, parce que les transfuges à Séoul, de haut niveau, vivent dans incognito, protégés par les services, ils apparaissent très peu. Ce n'est pas plus du tout une vie de liberté. Et puis, c'est quand même passé chez l'ennemi, donc c'est aussi perçu comme une forme de trahison vis-à-vis de la Corée du Nord. Donc c'était sans doute un choix qui devait être difficile pour... Et on ne sait pas est-ce qu'il avait accepté finalement de se résigner pour protéger sa famille. Et peut-être que c'est ça qui a déclenché l'estocade, qui a fait que pour Pyongyang, ce n'était pas possible de laisser un membre de la famille... basculer chez l'adversaire.
Et alors, cela dit, même après son exil, il est resté proche de son père, Kim Jong-il. Est-ce qu'il a continué à travailler pour la Corée du Nord, malgré tout, parce qu'il est quand même nord-coréen, attaché à son pays,
ouais. En effet, c'est une histoire de famille très sensible. Après, sa mise à l'écart, on ne sait pas vraiment, même s'il a jamais été véritablement désigné comme successeur. Mais ce qui est certain, c'est que à partir de cet épisode de Disneyland, on sait qu'officiellement il est mis à l'écart, qu'il vit à l'étranger. Mais on sait aussi qu'à Macao, il rendait des services importants au régime et à son père, puisque Macao était une plaque tournante. Il y a notamment une banque, la Banque Delta, qui permettait de faire transiter des fonds et contourner les sanctions internationales, notamment américaines, pour financer le régime, pour financer des programmes interdit nucléaire, mais aussi pour financer les achats de produits de luxe de la dynastie. Et donc, il a rendu beaucoup de services. Et donc, notamment l'argent qu'on a retrouvé dans son sac. On sait que Kim Jong-un faisait beaucoup d'opérations au service du régime ou au service d'autres, mais que c'était aussi quelqu'un qui avait une fonction dans les affaires. Il a à un moment rendu des services à son père, mais effectivement, oui. Le jour où son père est mort, c'était une autre affaire.
France Inter. Affaire sensible.
Sébastien Faletti, en quoi Kim Jong-un et son régime se distinguent-ils du père, voire du grand-père, si toutefois ils s'en distinguent ?
Ben évidemment, il y a d'abord une grande continuité, parce que c'est une dynastie, c'est avant tout une famille au pouvoir, et qui a trouvé un habillage au-dessus idéologique pour justifier cette succession qui, officiellement, pour un régime qui s'inspire de l'idéologie marxiste-léniniste, ne va pas de soi. Donc il y a beaucoup de continuité, mais le troisième des Kim, Kim Jong-un, a aussi réussi à imposer sa marque. Et ce qui est très frappant, c'est que à l'époque, je me souviens quand il est apparu au grand jour, c'était un garçon gauche qui était présenté par la presse internationale comme quelqu'un d'inexpérimenté, et on ne donnait pas cher de sa peau, parce qu'on disait, face à la vieille garde, il ne va pas tenir, c'était un gamin, et il a surpris tout le monde en réussissant à s'imposer d'une main de fer et en s'émancipant et par la manière forte, comme vous l'avez raconté, c'est-à-dire notamment carrément en exécutant son oncle Jang Song-taek, qui était de facto en fait le numéro 2 du régime et le régent, on l'appelait le régent de Pyongyang, parce que c'était lui qui était un peu celui qui était en charge de le protéger. Donc c'était vraiment un acte d'émancipation majeur, et Kim Jong-un a un caractère très, très tranché, et on dit que c'est pour ça que son père l'a choisi, parce que c'est le fils cadet, c'est pas le fils aîné, justement. Kim Jong-nam était plus âgé, mais même il avait un autre frère, Kim Jong-un, qui est plus âgé, et c'est pourtant lui qui a été choisi pour son caractère, et on voit jusqu'à aujourd'hui encore, c'est quelqu'un qui s'impose, qui a des vues très... Et alors, il a tenté des choses dans son règne, une fois qu'il a pris tous les pouvoirs. On a vu qu'il a tenté une certaine ouverture économique pour attirer du commerce, notamment avec la Chine. Et puis, il a fait un coup de poker diplomatique face à Donald Trump. Il a osé rencontrer Donald Trump. Il a tenté d'arracher un deal, comme disait le président américain, sur le nucléaire. Qui finalement, ça n'a pas porté ses fruits, et il s'en est mordu les doigts au sommet de Hanoï, au Vietnam. Mais en tout cas, voilà, c'est un dirigeant qui, malgré sa jeunesse, il est encore trentenaire, a démenti les pronostics et a réussi à s'imposer. Maintenant, aujourd'hui, la Corée du Nord est néanmoins toujours en grande difficulté. Depuis la pandémie, elle s'est fortement renfermée.
Oui.
Et le fameux cliché de la boîte nord-coréenne est plus vrai que jamais aujourd'hui, parce que c'est un pays qui s'est complètement fermé depuis 2020 et dont on sait encore moins de choses. Et on a simplement des indices que la situation économique s'est encore dégradée et qu'elle doit être très difficile sur le plan alimentaire dans les campagnes notamment.
Alors, on reviendra à l'état de la Corée du Nord, mais il y a eu l'assassinat de l'oncle, du demi-frère. Est-ce qu'il y a eu d'autres assassinats dont on aurait connaissance de la part de ce Kim Jong-un ?
Ben, on sait qu'il y a eu des purges régulières, comme il y en a souvent les régimes autoritaire. Et dans l'armée, on sait qu'il y a eu des hauts gradés qui ont été exécutés. Ce sont des pratiques qui ont eu lieu avant lui, mais c'est vrai que Kim Jong-un a montré de façon implacable sa détermination. Est-ce que c'est justement aussi, est-ce que ça ne trahit pas une forme de d'inquiétude? Il faut voir aussi que Kim Jong-un a grandi dans un contexte extrêmement fragile et difficile, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand lui, il est adolescent, à l'époque, la Corée du Nord, le régime nord-coréen, apparaît complètement un dinosaure sur le point de s'effondrer. On est à la fin de la guerre froide, tout le monde rigole de son père Kim Jong-il à l'échelle mondiale. Je veux dire, il est présenté comme un espèce d'anomalies, un Jurassic Park communiste qui s'effondrera d'un jour à l'autre. Et il a grandi dans cette atmosphère crépusculaire. Il a aussi vu dans des proches de sa famille qui ont fait défection aux États-Unis, notamment des oncles et tantes qui le protégeaient lorsqu'il vivait en Suisse, qui sont partis, eux, rejoindre les États-Unis via la CIA. Il a vécu la fragilité du pouvoir politique. Donc ce garçon qui avait l'air inexpérimenté et qui était évidemment grandi comme un prince dans un palais. Par ailleurs, il a eu une expérience de la politique extrêmement brutale dès son plus jeune âge. Et donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on l'a sous-estimé, parce que quand il arrive au pouvoir, il a à peine 30 ans, même moins, et pourtant, il a déjà une poigne qu'il a sans doute appris aussi. Dans le secret, il a été formé sans doute avant de prendre le pouvoir, dans les services. Son père l'a préparé, lui a mis le pied à l'étrier, et donc il était tout sauf un novice quand il a pris les rênes.
Quels sont aujourd'hui les alliés, les pays alliés de la Corée du Nord?
Là, c'est un peu le grand problème de la Corée du Nord, c'est qu'elle est de plus en plus isolée. Alors,
oui.
Alliée, elle a eu de nombreux réseaux où elle vendait notamment des armes, par exemple au Moyen-Orient, par exemple la Syrie de Bachar el-Assad. Elle a vendu des armes à la Libye de Muammar Kadhafi. Et en Afrique aussi, il y a eu toute une époque où la Corée du Nord était un pays qui avait une forte influence mondiale. Évidemment, ça s'est rabougri. Et maintenant, le gros problème de la Corée du Nord, c'est qu'elle est en tête à tête avec son plus grand, son seul véritable grand allié et soi-disant protecteur, c'est la Chine voisine, par où passe 90% de son commerce extérieur. Et donc, la Corée du Nord est dans une situation de dépendance très forte face à la Chine. Et le régime nord-coréen se méfie de façon très forte de Pékin. Ça s'est ancré dans l'histoire coréenne, ça ne date pas de ce régime. C'est pareil en Corée du Sud, on a une méfiance pour l'empire chinois parce qu'on a toujours peur d'être avalé par le géant. Donc les Nord-Coréens ont une relation très ambiguë avec Pékin parce qu'ils ont besoin de la Chine, mais en même temps ils ne veulent pas disparaître. Donc c'est un travail un peu d'équilibrisme, et dans ce contexte,
oui,
et ouais, le meilleur moyen, c'est de jouer avec d'autres puissances. Et donc c'est pour ça qu'on le voit se rapprocher actuellement de Vladimir Poutine,
oui.
Parce que jouer la carte russe, comme à l'époque l'Union soviétique, c'est aussi une façon de rééquilibrer face à la Chine.
Très bien.
Et de la même façon, quand
Sébastien
il a fait une ouverture vers les États-Unis,
Sébastien
c'est aussi un petit
pardon.
Peu une façon de jouer la carte de l'équilibre.
Pardon, vous êtes loin, j'ai essayé de vous couper. Je suis désolé parce que l'heure, c'est l'heure. En tout cas, merci infiniment pour toutes ces précisions, Sébastien Faletti, en direct de Séoul. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Kim Jong-nam, le roi maudit de Pyongyang, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur France Inter. À la technique, il y avait aujourd'hui Henri Bérec.